France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'enquête sur la mort d'Agathe Hilleré qui s'accélère. L'ADN de la joggeuse retrouvée dans la voiture du suspect. Les dernières informations dans un instant. Cet homme avait déjà été condamné pour viol et était sorti de prison il y a un an. Avec quel suivi? Nous verrons cela. À suivre encore, des religieux français qui sauvent un trésor archéologique à Gaza. On va vous raconter cette opération exceptionnelle. Des rafales français en Pologne. Mais est-ce vraiment efficace contre les drones russes? Les menaces américaines contre le Brésil après la condamnation de son ex-président Jair Bolsonaro. Le succès de la cantine à 1 euro dans les zones rurales. Nous écouterons le désarroi d'un maire du Limousin. Et puis l'alerte de l'agence de sécurité du médicament. Bonjour Victor Delange.
Bonjour Jérôme.
Sur les médicaments présentés comme anti-obésité.
Oui, des faux patchs, des boîtes d'origine inconnue à la composition souvent douteuse, mais la promesse est toujours la même. Maigrir en quelques semaines, ce commerce parallèle explose. L'agence du médicament a donc décidé de saisir la justice pour freiner ces pratiques.
A tout de suite pour vos précisions. À partir de 13h30, la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier, le journaliste Thomas Legrand et Philippe Corbet, directeur de l'information de France Inter. Ils répondront à toutes les questions que vous avez posées ces derniers jours après la polémique suscitée par la diffusion d'une vidéo volée montrant Thomas Legrand et Patrick Cohen échangeant avec deux responsables du Parti Socialiste. 13h50, c'est la France quand un alpiniste renonce et le dit. Virginie Troussier nous parle de Charles Duboulot. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La chanteuse Zaz demande le reggae du groupe The Prophecy.
Mon mari est mauricien. Quand je suis allée à l'île Maurice pour la première fois, il y avait cette chanson qui cartonnait à la radio. Et je suis tombée complètement en amour avec cette chanson qui m'a beaucoup, beaucoup nourrie.
Ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Un homme de 60 ans, ouvrier agricole, déjà condamné à deux reprises pour viol et agression sexuelle. Voilà le profil de l'homme suspecté d'avoir tué Agathe Hilleré en avril dernier, près de Vivonne, au sud de Poitiers. Le corps de la jeune femme de 28 ans, partie faire son jogging, avait été retrouvé près d'un mois après sa disparition. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Cet homme a été présenté à un juge ce matin en vue d'être mis en examen. De quels éléments disposent les enquêteurs?
Eh bien, après l'interpellation à 6h mercredi matin de ce discret ouvrier agricole, les gendarmes enquêteurs de la section de recherche ont aussitôt saisi sa voiture. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Les prélèvements ont très vite parlé en quelques heures et comme l'a annoncé ce matin la procureure de Poitiers, Rachel Bray, la présence de l'ADN de l'auteur présumé du crime a bien été retrouvée dans le véhicule. Pardon, la présence de l'ADN de la victime a bien été retrouvée dans le véhicule du suspect. Lors de sa garde à vue, l'homme a dans la foulée reconnu sa présence sur les lieux du crime dans ce sous bois à 20 km au sud de Poitiers le 10 avril dernier. Il a reconnu également avoir été en contact avec Agathe Hilleré le jour de sa mort. L'avocat du suspect précisant ce matin que son client avait également reconnu avoir porté deux coups. Les expertises avaient montré jusque-là que le corps d'Agathe Hilleré avait forcément été déplacé. Les derniers éléments de l'enquête montrent qu'elle a bien été enlevée, transportée dans la voiture de son agresseur présumé avant d'être redéposée non loin de là où elle avait disparu.
Est-ce qu'on sait, Emmanuel, comment les enquêteurs sont remontés jusqu'à cet homme?
Eh bien, il a fallu d'abord vérifier des milliers de témoignages et de signalements, visionner 1200 heures d'images des caméras de la région, procéder à 1000 auditions et surtout se plonger dans les profils de personnes figurant dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes actuellement en liberté. De là, les enquêteurs ont fini par cibler trois suspects, dont l'un, surtout, qui vivait là où la jeune joggeuse avait disparu, à Vivonne, donc, avec son profil particulièrement inquiétant, ses deux condamnations pour viol sur des joggeuses, justement.
Merci Emmanuel Leclerc. Je l'ai dit, cet homme avait déjà été condamné à deux reprises pour viol, 1994 dans le Puy-de-Dôme, idem en 2004 par la cour d'assises de Haute-Loire. Il était sorti de prison en avril 2024, bénéficiant d'un aménagement de peine. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Que prévoit la justice pour empêcher la récidive quand ce type de profil sort de prison?
D'abord, le condamné travaille avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, sur son projet de sortie plusieurs mois mois avant d'être libérable. Il a été condamné pour viol en récidive à 30 ans de réclusion avec une période de sûreté de 20 ans. Mais il y a des réductions de peine qui peuvent représenter jusqu'à 6 ans. Il y avait à l'époque des réductions de peine automatiques 2 mois par an et des réductions de peine supplémentaires si le condamné montre des efforts sérieux de réinsertion, en clair, s'il a suivi des soins. Le tribunal d'application des peines l'a donc autorisé à sortir avec un cadre. Les magistrats veulent surtout éviter la sortie sèche sans accompagnement. Il est donc sorti avec un placement extérieur dans un foyer ou un logement fourni par une association et le tribunal a ajouté une surveillance judiciaire réservée aux profils les plus lourds. Cela ne veut pas dire qu'il est surveillé 24 heures sur 24 par la police, mais il doit voir régulièrement le SPIP et il doit suivre des soins avec, en plus de son médecin ou psychiatre traitant, un médecin coordonnateur spécifiquement formé qui le voit tous les 3 mois.
Merci Sarah Guibaudot pour cet éclairage. À Besançon, 5e jour d'audience pour le procès de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier. Il est jugé pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, au sein de 2 cliniques de la ville. Des accusations qu'il nie fermement. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ce procès à Besançon. Pour l'instant, les premiers jours d'audience ne sont guère favorables à l'accusé.
Oui, les débats sont denses, techniques. Les jurés sont devenus en une semaine des véritables spécialistes du traitement de l'hypercaliémie par le gluconate de calcium. Et effectivement, les premiers médecins, pharmaciens, infirmiers qui se succèdent à la barre dessinent le scénario du crime parfait, comme le brandit l'accusation. Parce qu'un collègue qui tue des patients, c'est impensable. Inimaginable, se souvient le réanimateur qui a sauvé la vie de l'avant-dernière victime quand il a réalisé qu'elle avait été empoisonnée au potassium avec une injection de 12 grammes, 100 fois la dose normale. Un accident impensable, tranche le docteur Pilifloury. Alors un acte malveillant. Aucun doute, insiste le réanimateur. Clairement, on a voulu tuer la patiente. Mais le docteur Péchier a pourtant tenté de la sauver avec le fameux gluconate de calcium, relève la défense. Le spécialiste explique que ce traitement ne servait à rien, qu'il était même contre-indiqué dans une telle situation. Donc, soit il est totalement incompétent, soit il savait ce qu'il faisait, conclut le médecin, catégorique, face à un Frédéric Péchier qui encaisse, impatient de pouvoir prendre la parole pour se défendre, mais ce sera seulement dans 10 jours.
Jean-Philippe Degnaud à Besançon pour Inter. Un policier de la BAC de Tourcoing, de la police de Tourcoing, donc agressé hier pendant son service. Ce policier a été roué de coups alors qu'il tentait de démasquer des voleurs de trottinettes. Agression filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Condamnation et réaction publique ce matin du ministre de la Justice démissionnaire Gérald Darmanin et ancien maire de Tourcoing. Et puis toujours dans le nord, à Lille, l'internat du collège Myriam Makeba a été évacué cette nuit. 46 élèves, un incendie s'était déclaré sur la façade. Tandis que chez le voisin belge, les habitants vont bientôt voir des militaires et des policiers patrouiller ensemble dans les rues. Tout cela pour prévenir les règlements de compte liés au trafic de drogue. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant en Belgique. Les ministères de la Défense et de l'Intérieur belges ont annoncé un accord il y a quelques jours.
Oui, un accord qui vise à développer la présence de militaires armés en uniforme dans les rues des grandes villes belges, un peu comme on le voit en France avec les missions Sentinelle où les militaires assurent des missions de surveillance civile. L'objectif numéro un, c'est la dissuasion. Les pouvoirs publics belges misent sur le fait que l'uniforme militaire dissuadera les trafiquants d'écouler leurs marchandises en ville, quasiment au vu et au su de tout le monde. Le narcotrafic est un fléau qui gangrène la région bruxelloise. Des ont très régulièrement lieu lorsque des filières sont démantelées. Le phénomène concerne absolument tous les quartiers de la capitale belge, les plus reculés comme les plus chics et centraux. Depuis son arrivée en début d'année, le nouveau procureur du roi à Bruxelles a fait procéder à plusieurs milliers d'interpellations dans un pays qui occupe une place de choix sur les routes du narcotrafic européen qui part le plus souvent des grands ports de la mer du Nord.
Fabien Cazot en Belgique pour Inter. Un vol de câble en Saône-et-Loire la nuit dernière sur la ligne TGV et une circulation des trains qui est perturbée depuis ce matin entre Paris et Lyon avec jusqu'à 2 heures de retard. Des transports en commun qui, dans notre pays, n'ont jamais été aussi sûrs. Depuis 2016, 107 000 victimes déclarées de vol ou de violence l'an dernier. C'est un chiffre en baisse de 8% par rapport à l'année 2023, des chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. C'est une opération à haut risque qui a été menée par des religieux français mercredi matin dans la ville de Gaza. Évacuer le fruit de 30 années de fouilles archéologiques à Gaza, des vestiges grecs et romains qui étaient menacés par les bombardements de l'armée israélienne, car depuis une semaine, cette armée détruit une à une des tours d'immeubles accusées d'abriter des forces du Hamas. Alors avec l'accord de cette armée, ces religieux de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem ont réussi à mettre le trésor à l'abri. Récit d'Étienne Monin.
Cette opération, c'est à la fois la mise sur pied d'une grande chaîne diplomatique et une course contre la montre. L'entrepôt était au rez-de-chaussée d'un immeuble de 13 étages à Gaza. Il était devenu une cible pour l'armée israélienne qui vise depuis plusieurs jours les buildings de la ville. L'école biblique avait reçu un ultimatum mercredi matin. L'armée lui avait donné 30 minutes avant la frappe. Le consulat de France à Jérusalem et l'UNESCO, entre autres, ont dû intervenir pour rallonger ce délai. L'école biblique a alors mobilisé la paroisse de Gaza. Elle a trouvé 6 camions et 20 ouvriers. Hier, ils ont bravé le danger avant 18h et ils ont mis l'essentiel de la collection à l'abri dans un autre secteur de l'enclave. Ce trésor archéologique contient des objets et des morceaux. Il représente 2000 ans d'histoire jusqu'à la période byzantine. Il provient principalement de 5 sites aujourd'hui en danger dans la bande de Gaza. Ces fouilles remontent aux années 90. L'école archéologique est détentrice d'un mandat depuis la signature des accords d'Oslo.
Étienne Monin, cette guerre à Gaza, qui suscite la polémique en France en ce moment au musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Ce musée qui organise la semaine prochaine un colloque sur l'histoire des Juifs de France. Plusieurs universitaires ont été invités. Mais certains ont annulé leur venue. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Pour quelle raison ?
Alors, 5 chercheurs ont donc annulé leur participation au prétexte, je cite, qu'un programme de recherche en histoire médiévale de l'Université hébraïque de Jérusalem finance le billet d'avion d'une doctorante israélienne, donc, et spécialiste du Moyen-Âge. Boycott incompréhensible, souligne le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Nous nous réunissons pour parler de l'histoire des Juifs de France au Moyen-Âge, souligne son directeur Paul Salmona. Ce boycott fait réagir un grand nombre de personnalités, notamment du monde académique, qui ne comprennent pas le lien entre l'époque médiévale et les agissements du gouvernement de Benjamin Netanyahou à Gaza. Un boycott inédit pour le monde universitaire qui rappelle les années sombres du macartisme, dénonce Jonathan Arfi, président du CRIF.
Un cas de boycott d'institutions françaises comme le musée d'art et d'histoire du judaïsme portant sur un sujet français, en l'occurrence l'histoire juive de Paris depuis le Moyen-Âge, c'est quelque chose d'inédit. C'est un climat qui rappelle une forme de macartisme dans tout événement, toute personne en France juive ou supposée proche d'Israël pour essayer d'envoyer un message politique. C'est quelque chose de profondément malsain. C'est un climat d'intimidation qui me paraît dangereux pour le pluralisme au sein de notre débat public.
Cette médiéviste et doctorante israélienne n'a aucun lien avec le gouvernement et encore moins avec la ligne politique du gouvernement israélien. Se désolent les spécialistes du Moyen-Âge qui participeront à l'événement.
Laurent Kramer, j'ajoute que les Pays-Bas boycotteront l'Eurovision l'an prochain si Israël y participe. C'est ce qu'a fait savoir ce matin l'association de l'audiovisuel public des Pays-Bas. Les Américains iront-ils jusqu'à sanctionner le Brésil après la condamnation la nuit dernière à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État de l'ancien président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, en tout cas le secrétaire d'État américain, a promis des représailles la nuit dernière, juste après l'annonce de la condamnation. On va voir ça dans une minute avec vous. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
D'abord Nathanaël, est-ce que Bolsonaro a des recours pour participer l'an prochain à l'élection présidentielle ?
Écoutez, en effet, elle arrive vite. Vous savez, cette présidentielle, le premier tour de l'élection doit se tenir pile dans un an, le 4 octobre 2026. Conséquence, la nature ayant horreur du vide, la bataille devrait rapidement s'accélérer pour le leadership à droite, même si pour l'heure, le camp Bolsonaro serre les coudes en se présentant uni. Le camp conservateur, qui devrait d'ailleurs mobiliser au maximum dans les semaines à venir. Il pourrait mettre toutes ses forces pour unir le Parlement autour d'un projet d'amnistie. Un projet qui serait favorable évidemment au président battu dans les urnes en 2022, mais qui devrait se heurter à la majorité actuelle et aux Brésiliens particulièrement divisés sur le personnage Bolsonaro. En attendant, la situation est bloquée avec une certitude. L'ancien président est tout d'abord inéligible jusqu'en 2030. Il est actuellement assigné à résidence. Il va pouvoir s'appuyer aussi sur les institution avec la possibilité de faire appel une fois le jugement publié. Il aura 5 jours pour le faire. Vous voulez savoir l'état d'esprit de Bolsonaro ? Eh bien, c'est son fils qui en parle le mieux, puisqu'il explique que son père a la tête haute pour affronter, je cite, cette persécution.
Son fils qui est aux États-Unis, Nathanaël Charbonnier, ça nous amène à ces pressions intenses du gouvernement américain depuis hier soir et même avant la condamnation.
Oui, parce qu'il faut savoir en effet que Donald Trump a choisi son camp et qu'il défend au-delà de ce qu'on peut imaginer son ami Bolsonaro. Trump dénonce une chasse aux sorcières. Depuis le mois d'août, il a même mis en place une surtaxe punitive de 50% sur une part importante des exportations brésiliennes. L'amitié entre les deux hommes n'est plus à prouver. Il faut se souvenir aussi que lorsque Bolsonaro est arrivé au pouvoir en 2019, on parlait de lui en le qualifiant de Trump du Brésil. Ce qui est certain, vous l'avez évoqué, c'est que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a aussitôt promis des représailles. Le Brésil a répliqué, lui, qu'il ne se laisserait pas intimider par des menaces.
Nathanaël Charbonnier pour ses explications. L'ambassadeur de Russie en France était convoqué ce matin au ministère des Affaires étrangères. Convocation après l'incursion sans précédent dans la nuit de mardi à mercredi de drones dans l'espace aérien de la Pologne, des drones attribués à la Russie. Nous ne nous laisserons pas intimider, a dit ce matin sur Inter Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, et en appui de ses paroles, hier soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que trois rafales allaient être envoyés pour protéger la Pologne. Bonjour Eric Bigala.
Bonjour Jérôme.
Des avions de chasse face à la menace de drones. Est-ce que c'est une réponse adaptée ?
Alors, il faut tout d'abord voir que ce renforcement des missions de police du ciel ou de bouclier aérien de l'OTAN, auxquelles vont donc participer les rafales français, répond à une demande de la Pologne qui a activé l'article 4 du traité de l'OTAN ce jeudi. La France a répondu, mais aussi l'Allemagne, les Pays-Bas, la République tchèque, les Britanniques ou la Suède. En l'occurrence, il s'agit aussi d'une posture. Hein, on montre à l'adversaire, en l'occurrence la Russie, que les pays européens de l'OTAN sont présents en force sur le flanc oriental de l'Alliance. Alors, c'est vrai, les avions de combat ne sont pas la meilleure des défenses pour contrer des drones légers et produits en masse. Hein. Face à ceci, il faut trouver plutôt des parades peu chères, faciles à mettre en œuvre, efficaces. Et les vrais spécialistes en la matière, ce sont les Ukrainiens, qui ont mis au point des techniques très variées pour ce faire. Drones anti-drones, filets de protection, systèmes de brouillage ou d'usurpation électronique des autodirecteurs de ces engins, et bien sûr, défense plus classique, au canon anti-aérien, voire à la mitrailleuse, moyennant quoi ils parviennent à intercepter près de 80% des centaines de drones d'attaque russes lancés sur l'Ukraine à chaque vague d'assaut.
Eric Bigala, alors que la Russie et le Bélarus ont entamé ce matin des exercices militaires dans ce pays frontalier, le Bélarus frontalier de la Pologne.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est la CFDT, premier syndicat de France, qui a ouvert le bal ce matin d'une journée que Sébastien Lecornu consacre aux syndicats et au patronat, tous reçus par le nouveau Premier ministre avant les partis de gauche et avant le Rassemblement national, signe de l'importance qu'il leur accorde. Et Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, est sortie de ce rendez-vous il y a quelques minutes.
Il a redit qu'il y aurait un certain nombre de ruptures à la fois sur le fond et sur la forme.
Lesquelles ?
Il n'a pas démenti le fait qu'il pourrait y avoir un certain nombre d'éléments de travaux sur une contribution des plus hauts revenus. Selon quelle modalité, ça, c'est pas encore complètement défini. Mais aujourd'hui, je pense que ce qu'attendent les travailleurs et les travailleuses, c'est qu'il y ait des preuves de cette rupture et qu'on puisse avoir une démonstration qu'il y a véritablement un changement de méthode.
Marie-Lise Léon, reçue ce matin par Sébastien Lecornu. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Matignon. Que cherche le nouveau Premier ministre avec cette série d'entretiens ?
Écoutez, on sait que les syndicats sont un peu sortis émoussés de la période Bayrou, où il y avait eu beaucoup de promesses au départ, avec notamment ce fameux conclave sur les retraites fini en eau de boudin au début d'été. Et puis est venu ce budget aux multiples lignes rouges pour les syndicats, une énième réforme annoncée sur l'assurance chômage, la suppression de jours fériés, le sentiment finalement que ce sont toujours les mêmes qui finissent par payer. Le Premier ministre fraîchement arrivé veut donc se réconcilier d'abord avec le corps social, ce qui a donc commencé avec la CFDT ce matin. Sa secrétaire générale Marie-Lise Léon, un long entretien d'1h45, c'est assez rare pour le souligner, où il a été question de tous les sujets qui fâchent. Le dialogue a été franc, direct, vient de déclarer, comme on vient de l'entendre, Marie-Lise Léon. Le Premier ministre dit et promet qu'il y aura une rupture, dont acte. La CFDT attend donc des preuves de cette rupture, elle qui appelle toujours, comme tous les autres syndicats, à manifester le 18 septembre pour peser sur le futur budget, où Sébastien Lecornu sait qu'il devra composer avec les syndicats, les écouter, ne serait-ce que pour s'éviter au moins une censure de la part des socialistes.
Maxime Debs en direct de Matignon, le siège du Premier ministre, avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Et puis on surveillera ce soir l'appréciation de l'agence de notation Fitch sur l'état de nos finances publiques pour voir si elle dégrade sa note, ce qui aurait pour conséquence de faire payer à la France ses intérêts de la dette plus cher. Parmi les dépenses de l'État, il y a cette aide pour les collectivités, celles qui veulent proposer des tarifs de cantine différenciés selon les revenus. 1 euro par repas, par exemple, pour les élèves les plus défavorisés. C'est le cas en Haute-Vienne depuis la rentrée à la Croisy-sur-Briance qui a une petite école de 35 élèves. Mais il y a quelques semaines, quand le maire a proposé cette aide, il a été choqué de voir autant de familles y prétendre. Jean-Gérard Didière.
On s'est aperçu à la fin de l'année scolaire au mois de juin qu'on avait de plus en plus d'impayés au niveau des factures. Donc on a essayé de comprendre. J'ai regardé la liste des impayés et je me suis aperçu avec stupéfaction que non seulement il y avait le traditionnel mauvais payeur ou le cas social qui ne pouvait pas payer, mais que la grande majorité, c'était des gens qui travaillaient. Donc on a dit, ben, faut trouver une solution. Et donc on a été rechercher une loi qui datait d'il y a 2 ans. Et quand on a mis en place, on a eu une deuxième stupéfaction, c'est de se rendre compte que sur 35 élèves que l'on a à l'école de la Croisille, on avait 80% des familles qui ont des enfants à l'école qui étaient éligibles au 1 euro. On est un secteur qui n'est pas riche, ça on le savait, le canton est un des plus pauvres de France. Mais qu'on en soit à ce que 80% des familles soient éligibles, pour moi c'était une très grande surprise.
Ce maire de Haute-Vienne au micro d'ici Limousin. Ce sont des médicaments présentés comme miracles pour lutter contre l'obésité, Ozempic, Wegovy, mais ils sont chers. Alors la tentation peut être grande de les acheter sur Internet où ils ont de grandes chances d'être contrefaits. Victor Delandre, on vous retrouve face à l'explosion de ce phénomène, l'agence de sécurité du médicament a saisi la justice.
Oui, elle a saisi le procureur de la République en avril dernier et déjà réalisé plusieurs signalements sur le portail Pharos du ministère de l'Intérieur de ces sites frauduleux. Il faut dire qu'en seulement quelques clics, vous trouverez très facilement de l'Ozempic ou du Wegovy. Ce commerce parallèle explose, me confie une nutritionniste installée dans le sud de la France. Et de préciser, à chaque consultation désormais, on me parle de ces médicaments et de la possibilité de s'en procurer facilement sur Internet. Comme il y a 10 millions de Français en situation d'obésité et un Français sur deux en situation de surpoids. L'attente autour de ces médicaments est très importante, explique Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses.
Les gens qui sont peu scrupuleux ont bien vu effectivement l'attente et la désespérance de la population à vouloir trouver une solution. Et effectivement, comme d'habitude, ils s'engouffrent là-dedans. Même si on est désespéré et qu'on veut perdre du poids, vous avez l'obligation, dans votre intérêt purement personnel, de passer par un médecin.
Et car ces médicaments vendus en ligne sont la plupart du temps, vous l'avez dit Jérôme, des contrefaçons. C'est très dangereux de les acheter, assure Jean-Michel Aupert, chef du service de nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
C'est évident que d'acheter des produits dont on ne connaît pas la provenance ni la composition expose à un risque. Donc sans parler effectivement du fait que l'indication de la prise de ces produits n'est pas forcément du tout pertinente.
Rappelons que le Wegovy est le seul médicament autorisé en France pour les personnes en situation d'obésité, mais il doit être délivré sur ordonnance par un médecin si et seulement si le patient a un indice de masse corporelle supérieur à 35.
Victor Delande, eux, existent toujours et malgré la concurrence d'Internet, les camelots qui nous vendent sur les marchés une essoreuse à salade dernier cri ou encore un rap légumes révolutionnaires. Eh bien, ils font ce qu'ils peuvent face aux plateformes en ligne, Temu, Shein ou encore AliExpress, comme l'a constaté Clémentine Sabrier à la Foire du Mans.
La démonstration est bien rodée. Sur l'étal de Vincent Buffet, des râpes rotatives et plein de morceaux de légumes colorés.
On choisit la grille qu'on veut, hop, on la met, on la visse. Et la roulée jeunesse, ça part tout seul. Vous allez pouvoir avoir votre salade sans problème.
Un petit groupe s'amasse autour du stand.
Vous êtes sur un produit 40 euros. Garantie 2 ans, vous avez mon adresse, mail, téléphone, j'ai 3 couleurs à vous proposer.
C'est souvent à ce moment-là que certains sortent les téléphones portables pour prendre des photos ou chercher directement le produit sur Internet. Ça arrive tout le temps sur le stand de Mimi, juste à côté.
Ah mais c'est 99% du temps ça.
Elle vend un aspirateur portable pour mettre les vêtements sous vide et gagner de la place.
Mais peu importe quel produit vous vendez, c'est devenu un automatisme. Et parfois ils le font même devant vous.
Et ça, Tony Blanchot, au milieu de ses appareils pour mettre la nourriture sous vide, ne le supporte pas.
C'est une attitude depuis 3 ans, que ça soit les jeunes, mais surtout les personnes d'un certain âge. Et ils ne prennent pas de gants pour nous le dire.
Pour pallier la baisse de ses ventes sur les foires, Vincent Buffet trouve des alternatives.
On met des vidéos sur TikTok, sur Facebook,
et on vend aussi sur Internet.
Mais ce n'est pas ce qu'ils préfèrent.
Concrètement, on préfère avoir l'être humain devant nous que derrière un écran.
Il continue tout de même de réaliser la majorité de son chiffre d'affaires sur les foires et les marchés.
Reportage ici mène la foire du Mans, c'est jusqu'à lundi, au centre des expositions. On le connaît, chanteur et performeur, particulièrement sur France Inter. On le découvre désormais dessinateur. Philippe Catherine, invité d'honneur du festival Gribouilly, ça se passe à Bordeaux jusqu'à dimanche, 5e édition de cette manifestation consacrée à la bande dessinée et au livre jeunesse. Eh bien, Catherine vient y présenter une trentaine de dessins et de sculptures et Alexis de Meyer est allé à sa rencontre.
Au milieu d'un carrefour embouteillé, un chef d'orchestre tente d'harmoniser les klaxons. Sobrement intitulé « Concert », ce dessin résume bien le style catherinien, drôle, poétique et modeste.
Plutôt des dessins au feutre noir sur fond blanc, des dessins de mes obsessions en fait, hein, quelque part. J'ai des angoisses et j'essaie de les comprendre. Et puis beaucoup de sculptures de la famille Rose, avec des cicatrices sur le cœur, gros nez, des grosses oreilles, des très belles fesses.
Et l'art plastique est loin d'être une lubie passagère. Le petit Philippe Catherine a même dessiné avant de chanter.
Mais je dessine depuis que je suis en âge de tenir un crayon. Alors bon, j'ai eu mon âge d'or, hein, entre 5 et 8 ans. Et puis après, j'ai toujours voulu récupérer cet âge d'or. Enfin, tous les jours, je dessine quelque chose. Souvent, c'est pour remplir les poubelles. Mais moi, ça me rend plus léger. Donc, ça me vide quelque part. Donc, c'est une espèce d'hygiène de vie, le dessin.
Et d'ailleurs, Philippe Catherine le proclame dans l'introduction de son expo. La moitié du temps, il vaut mieux l'image que le son.
Catherine en dédicace cet après-midi au festival Gribouilly. C'est à l'espace Saint-Rémy de Bordeaux. Et alors là, le festival et toutes ses expositions se poursuivent jusqu'au 28 septembre, 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas, on va dire aussi un mot du week-end. Puis à 13h30, la médiatrice de Radio France. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jérôme.
Nos invités aujourd'hui.
Philippe Corbet, directeur de l'information sur France Inter et Thomas Legrand, éditorialiste politique.
13h45, notre feuilleton, un musée de la mine qui passe au vert. Nous sommes à Le Ward, dans le département du Nord. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme. Jérôme.
Virginie, renoncer à gravir les sommets, c'est très dur pour un alpiniste.
Et oui, cet été, lors de sa dernière expédition, l'alpiniste haut-savoyard Charles Duboulot n'a pas atteint le sommet qu'il convoitait. Son parcours nous conduit donc à une question universelle. Que nous apprend la montagne quand elle nous oblige à faire demi-tour?
Et avec vous, Frédéric, une chanteuse.
Oui, nous serons avec Zaz, qui sortira un nouvel album la semaine prochaine. Et avec elle, nous écouterons un groupe de l'île Maurice qu'elle a découvert sur l'île Maurice grâce à son mari mauricien.
Tout cela est parfaitement logique. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
Souvenez-vous, en 2008, Lehman Brothers faisait faillite et la crise des subprimes faisait vaciller l'économie mondiale. Les Français voulaient retirer leurs économies des banques, ce qu'on appelle dans le milieu de la finance un gros bordel. Ce vendredi, Zoom Zoom Back sur 2008, une année chaotique.
Zoom Zoom Zen, tous les jours de 16h à 18h sur France Inter. Ça, c'est le bruit d'une vie un peu trop animée. Deviens membre maintenant, profite de 6 semaines offertes et reçois un sac de sport. Basic Fit, go for it. Go for it est égal lancez-vous. Mood est égal humeur. Promotion valable du 25 août au 9 octobre 2025 inclus pour une nouvelle inscription à un abonnement annuel confort, premium ou ultimate. Durée de 6 plus 52 semaines.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Des averses sur le nord-ouest cet après-midi.
Oui, situation toujours très instable entre la Normandie et les Hauts-de-France avec des averses régulières et parfois orageuses. Les averses seront plus dispersées entre la Bretagne, la Touraine et le Poitou. Elles pourront tout de même déborder vers l'ouest parisien, les Charentes, le Limousin, voire vers le Berry. L'est des Pyrénées verra aussi quelques averses se développer cet après-midi. Et puis sur le reste du pays, le temps sera plus sec. Sur le bassin aquitain et de l'est de l'Auvergne jusqu'à l'Île-de-France, au Grand Est et au Jura, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages. Alors que sur la Provence, la Corse et du Languedoc à Rhône-Alpes, l'après-midi sera plus ensoleillé. Les maximales auront du mal à atteindre les valeurs de saison. 18 à 25 degrés en général, mais tout de même 25 à 31 degrés autour de la Méditerranée. Et puis un petit mot du week-end.
Oui.
De nouvelles averses orageuses vont se développer sur la moitié nord demain. Attention aussi autour de la Méditerranée demain avec des pluies soutenues et des orages, notamment sur la Provence.
Mm-hmm.
Le soleil lui reviendra dimanche sur le sud-est, mais une nouvelle perturbation va apporter des pluies sur un large quart nord-ouest.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Le rendez-vous de la médiatrice des antennes de Radio France, comme chaque mois, vous le savez. Dans ce 13-14, Emmanuel Davier avec nous pour vous répondre et avec deux invités aujourd'hui. Philippe Corbet, directeur de l'information de France Inter, et Thomas Legrand, journaliste politique. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme, bonjour Emmanuel.
Emmanuel, les auditeurs vous ont adressé de nombreux messages ces derniers jours à la suite de la vidéo tournée à l'insu de Thomas Legrand et de Patrick Cohen et les montrant en discussion avec des cadres du Parti Socialiste. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé ?
Eh bien, dans une vidéo diffusée vendredi par le média conservateur L'Incorrect et filmée en juillet dans un restaurant parisien, les éditorialistes Thomas Legrand et Patrick Cohen échangent avec des cadres du PS. Au cours de cette discussion, la stratégie de la gauche est évoquée en vue des présidentielles de 2027 et des propos de Thomas Legrand peuvent être interprétés comme un parti pris à l'encontre de Rachida Dati, ministre sortante de la Culture, investie comme candidate des Républicains à la mairie de Paris. Dès vendredi soir, la direction de France Inter suspend d'antenne Thomas Legrand. Un peu plus tard dans la soirée, Rachida Dati demande dans un message publié sur X que des mesures soient prises envers les deux éditorialistes. Elle dénonce des propos graves et contraires à la déontologie. On assiste également à un concert de critiques des partis politiques envers les deux éditorialistes. De la France Insoumise au Rassemblement National en passant par les Républicains, on parle, je cite, de complot, infiltration, mafia. Mardi, Thomas Legrand déclare qu'il renonce à son intervention hebdomadaire sur France Inter. Et j'indique que le comité d'éthique de Radio France a été saisi et son avis sera publié cet après-midi sur le site de la médiatrice.
Et donc ces derniers jours, Emmanuel Davier, les auditeurs vous ont écrit, ils ont été nombreux à le faire, et à la lecture de ces messages, vous avez constaté deux types de réactions extrêmement clivées.
Oui, d'un côté, ceux qui apportent leur soutien à Thomas Legrand sans réserve. Ils estiment que la diffusion de cette vidéo constitue une violation de la vie privée. Ils évoquent une fragilisation de la liberté d'expression et de la liberté de la presse.
Et que disent les autres auditeurs ?
Eh bien, ils se disent choqués, ils se sentent trahis, ils dénoncent des comportements militants, l'idée que les journalistes font de la politique plutôt que de l'analyser. Pour eux, il y a là un manquement à la neutralité et à la déontologie journalistique du service public. Alors, Thomas Legrand, afin que votre statut soit clairement identifié pour les auditeurs, il est important de rappeler qu'il y a 3 ans, après 14 ans d'édito politique dans la matinale, vous avez quitté la rédaction et quitté par là même votre CDI pour rejoindre les programmes. Vous avez donc changé de statut et de rythme. D'éditorialiste quotidien, vous êtes devenu producteur avec une émission hebdomadaire consacrée à l'histoire des idées politiques tout en étant journaliste et éditorialiste politique à Libération.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai quitté l'édito politique ici, et comme je partais à Libération, j'ai préféré avoir... J'ai demandé à la direction de l'époque si j'ai proposé une émission dite à polémique froide, c'est-à-dire une émission historique, une émission sur la politique. C'est ma passion. Et je l'ai faite pendant 3 ans. Et puis, depuis septembre, c'est pas de cette émission que je me suis retiré après cette polémique. C'est du débat. Je devais, en accord avec Philippe Corbet, directeur de la rédaction, je devais tous les dimanches participer, débattre moi-même avec quelqu'un, un petit peu à la façon de Dominique Seux, voilà, mais pas quelqu'un...
Alors Dominique Seux intervient en tant que, vendredi, que journaliste des Échos, vous interveniez en tant qu'éditorialiste Libération.
Non, j'intervenais en tant que Thomas Legrand, parce que je ne voulais pas, et on en avait convenu avec Philippe, je ne voulais pas intervenir contre quelqu'un de droite ou quelqu'un... Je voulais à chaque fois que ça soit quelqu'un de différent, je pouvais intervenir, imaginez, avec contre un socialiste sur le thème de la République, j'aurais été en opposition, par exemple, des choses comme ça. Donc, je voulais simplement montrer que le débat pouvait être apaisé dans une période de polarisation. Le service public, à mon avis, doit promouvoir un débat apaisé. Et bon, et ce débat, il ne peut plus être apaisé à cause de la situation. Et c'est moi, et pas la direction qui m'a demandé d'arrêter. Et c'est ça que j'ai arrêté. Mais bon, je ferai autre chose, et puis j'interviendrai en tant qu'éditorialiste de Libération, et puis je ferai autre chose, on verra tout ça avec la direction plus tard. Mais je voudrais, parce que les mots ont été forts, d'abord je suis ravi de pouvoir m'expliquer enfin maintenant ici, et je voudrais remercier tous les auditeurs qui m'ont soutenu, je voudrais aussi remercier tout le personnel de Radio France qui m'a très largement soutenu, et je voudrais surtout m'adresser, parce que quand vous dites trahi, c'est ce qui m'arrache le cœur, quoi.
Si j'ai trahi, c'est vraiment les mots
bien sûr, et je voudrais m'adresser à cela pour expliquer finalement quel est notre métier qui est compliqué, quel est notre métier, quelles sont nos valeurs et quel est le métier d'éditorialiste en particulier.
Alors justement, l'onde de choc politique et médiatique ne porte pas seulement sur les faits eux-mêmes mais sur l'image de l'institution et de Radio France, et il est légitime pour un journaliste de rencontrer et d'échanger avec des responsables politiques, mais la teneur de la conversation de cette vidéo a brouillé la frontière entre observation journalistique et participation supposée au jeu politique. Alors Thomas Legrand, où situez-vous la frontière dans la relation entre éditorialiste et responsable politique? Et avant cela, il serait intéressant, justement, vous l'indiquez, pour les auditeurs, de vous entendre clarifier les différences fondamentales qu'il existe entre un éditorialiste et un journaliste.
Oui, alors avant tout, vous avez dit la teneur de ce qui a été diffusé. En fait, ce qui a été on ne peut pas prendre aucune décision et émettre aucun jugement de ce qui a été diffusé. À partir de ce qui a été diffusé, c'est un montage. Je ne parle pas de vidéo, c'est un montage. Songez qu'une des minutes qui a été diffusée, il y a 11 points de montage. C'est un peu technique, mais je ne sais même pas si le début correspond à la fin, etc. Donc, tout est tronqué. Tout est tronqué là-dedans. Donc, je demande aux auditeurs, je demande à ceux qui regardent ces vidéos, je demande à tout le monde de ne prendre aucune décision en fonction de ce qui est un montage et une manipulation. Ce rendez-vous donc au café Le Coucou dans le 7e arrondissement, il m'a été demandé par un socialiste que je connais. Il voulait me présenter Pierre Jouvet, que je ne connaissais pas, et il voulait surtout que je leur présente Patrick Cohen, parce qu'il n'était pas content d'édito qu'il avait fait, et il n'était pas content d'édito que j'avais fait dans Libération. C'était deux proches de Faure, et moi je défendais l'idée plutôt.
Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Voilà. Je défendais plutôt, c'était une analyse que j'ai faite dans Libération, pas à Radio France, à France Inter.
Donc là, c'est important que les auditeurs comprennent que Patrick Cohen était là au titre de France Inter et vous au titre de Libération.
Oui, parce qu'il me reprochait des papiers que j'avais fait dans Libération. J'ai pas fait d'émission enquête de politique sur le datisme. J'en ai fait sur le Trumpisme, que je vous recommande de télécharger parce que ça éclairera nos débats aujourd'hui, mais pas sur le datisme. Et donc, le début de notre conversation était un petit peu tendu. C'était une explication de gravure. Et parce qu'ils étaient pas content. Et c'est normal en tant qu'éditorialiste. Moi, je commente. J'ai un peu le complexe du commentateur, vous savez, celui qui commente des gens qui font des choses. Et donc, je leur dois, quand ils sont pas contents, je leur dois des explications. J'avais fait un édito aussi qui disait que Bruno Retailleau avait l'air plus sincère, et c'est pour ça qu'il a gagné la bataille à l'air, que Wauquiez. Eh bien, il y a des proches de Wauquiez qui m'ont appelé, et je leur ai expliqué. Si vous m'aviez filmé à ce moment-là, eh ben, vous auriez pu constater avec un bon montage que j'avais l'air d'être wauquiériste. Je suis ni wauquiériste, ni glucksmannien. Je fais des analyses et tout ce que j'ai dit dans ce restaurant, je l'ai écrit dans Libération. Voilà, et c'est ça. Je sais que c'est très compliqué à comprendre pour les auditeurs, mais on doit rencontrer des hommes politiques. Ça se passe bien, ça se passe mal. Quand ça se passe mal, eh ben, on essaye d'avoir l'air un peu sympa avec eux pour rester... voilà, et quand c'est filmé et que c'est coupé, eh bien, ça crée le coucou gate là, qui nous occupe aujourd'hui et qui, franchement, m'étonne dans son ampleur.
Philippe Corbet, vous êtes le directeur de l'information de France Inter. Les auditeurs pointent une différence de traitement entre Thomas Legrand et Patrick Cohen, toujours présent à l'antenne, ce qui soulève pour eux des questions d'équité. Certains estiment que le maintien à l'antenne de Patrick Cohen décrédibilise le service public et nuit à la confiance des auditeurs. Que leur répondez-vous ?
Alors, dès que nous avons découvert l'article, puis les montages vidéo en question vendredi soir, on a regardé attentivement et on a considéré qu'il y a une différence entre les propos de Thomas Legrand et les propos de Patrick Cohen dans ces montages vidéo. Les propos de Thomas Legrand, vous venez d'en parler, je ne vais pas rentrer en détail, mais vous avez parlé tout à l'heure de confusion, et on le sait, et vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'auditeurs, beaucoup d'auditeurs, qui nous ont dit qu'ils étaient mal à l'aise et qui se posent des questions sur l'utilisation de notre antenne à des fins partisanes. Et comme cette confusion est là, même si les méthodes de captation et de diffusion sont détestable, même si ces extraits ont été instrumentalisés pour nous attaquer, même si nous croyons à la version qu'a évoqué Thomas Legrand, à son honnêteté journalistique en général, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une confusion. Elle existe, c'est un fait, et donc on doit l'écouter, on doit l'entendre, et c'est aussi en pensant à cette confusion que nous avons pris, quand je dis nous, c'est Adèle Vendrède, la directrice de France Inter, et moi en tant que directeur de l'information, nous avons fait le choix essentiel de protéger notre antenne et de protéger la rédaction, protéger le travail des journalistes de la rédaction et notamment le travail des reporters sur le terrain. Il faut qu'on puisse continuer à faire notre travail sereinement et donc il faut entendre cette confusion et ne pas être sourd. Les propos de Patrick Cohen dans ses montages vidéo, dans cet article, ne participent pas, n'alimentent pas cette confusion. Patrick Cohen, il est à cible d'attaques inacceptables et il a toute notre confiance.
Alors, selon vous, quelle leçon le journalisme de service public peut-il tirer de cette affaire ?
Alors, en fait, l'essentiel pour nous, tous les jours, c'est la confiance. La confiance, c'est la clé du travail qu'on fait. C'est un travail assez difficile, patient, long. Et la confiance, ça ne se décrète pas. C'est un effort de tous les jours. Un effort modeste, faire un bon reportage, raconter ce qui se passe, inviter les bonnes personnes, poser les bonnes questions, hiérarchiser, etc. Et donc, la confiance est essentielle. La responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut parfois écouter quand il y a un trouble, écouter quand il y a une confusion. Et parfois assumer quand il y a un malaise ou une incompréhension, une maladresse. Et puis, l'indépendance éditoriale. Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers jours dans la rédaction. On a passé plusieurs heures à parler collectivement de cette histoire. Et l'une des choses dont on a parlé, c'est notamment de est-ce qu'il ne faut pas davantage ou mieux expliquer la manière dont on travaille, la manière dont nous faisons nos choix éditoriaux, la différence entre, vous venez de le faire, éditorialiste et reporter, par exemple. On le fait régulièrement avec vous, Emmanuel. On écoute les messages des auditeurs. Mais voilà, on a eu toute une réflexion là-dessus, mais la clé, c'est la confiance, comment pouvoir travailler en confiance. Et c'est important pour nos auditeurs, mais c'est important aussi pour ceux qui ne nous écoutent pas. France Inter est la radio de tous les Français, même ceux qui ne nous écoutent pas. Et c'est ça la garantie de notre indépendance éditoriale, que tous les Français considèrent que France Inter est leur radio.
Autre courrier, et on va poursuivre Emmanuel Davier dans l'actualité politique qui a été riche cette semaine. Un propos tenu dans un reportage diffusé ici même dans ce 13-14, c'était lundi.
Oui, on écoute un extrait.
Je voudrais qu'on écoute quelques paroles de Français sur ce vote, paroles recueillies ces dernières heures à Metz et au Mans.
J'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. J'ai bien envie que Bayrou tombe, j'ai bien envie d'aller dans la rue le 10.
J'espère qu'il ne sera plus là parce que c'est un pourri. Et puis le président, c'est pareil, hein, c'est la même clique. C'est qu'on a eu le moyen d'acheter une maison parce qu'on a fait fructifier nos heures de travail. On s'aperçoit qu'il faut faire quelque chose. Hein. Mais de toute façon, on est pour la manifestation.
Dans ce reportage, François Bayrou est qualifié de pourri et le passant interviewé poursuit en disant « Et puis le président, c'est pareil, c'est la même clique ». Des auditeurs n'ont pas compris que de tels propos aient été diffusés. Ils parlent d'un manque de respect envers des hommes politiques qui, quoi qu'on pense d'eux, occupent des fonctions importantes dans la vie publique. Jérôme Cadet, comprenez-vous la réaction des auditeurs qui estiment que le service public est tenu à une exigence particulière de respect et d'objectivité ? Alors je m'adresse à vous puisque ça a été diffusé dans votre journal.
Absolument, et c'est un choix
qu'on a fait communément avec Estelle Schmitt, qui est la rédactrice en chef de ce 13h. Je voudrais d'abord remercier les auditeurs qui nous écrivent, parce que je reçois beaucoup de courriers, je réponds toujours, et j'aime qu'il y ait cet échange, et c'est une particularité de France Inter, je crois, d'avoir cet échange direct avec les auditeurs, et c'est extrêmement précieux. Il faut qu'on se remette dans le contexte, donc lundi 13h, effectivement, on est 2 heures avant la prise de parole de François Bayrou à l'Assemblée nationale dans ce vote de confiance. Ce qui nous importe à ce moment-là, c'est effectivement de dépeindre l'Assemblée nationale, le rapport de force politique, mais aussi de sentir quel est l'état d'esprit du pays. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion depuis des jours, on voit un Premier ministre qui est très impopulaire, le plus impopulaire de la Ve République, on voit aussi une défiance contre le chef de l'État. Ça, c'est un élément d'appréciation. Et puis, on écoute les reportages que font les reporters de la rédaction de France Inter, et puis on écoute aussi les reportages que font les locales d'ici, ex-France Bleu, et lundi, tout ce qui remonte, c'est beaucoup de véhémence, voire de violence à l'égard de François Bayrou, et ça va évidemment peser dans le vote de l'après-midi, donc il faut aussi qu'on en fasse l'écho. Donc on choisit à la fois de transmettre cette parole, c'est ce que vous venez d'entendre, et aussi dans un second temps, parce qu'il y a un autre son qui est diffusé quelques secondes après, d'un représentant du bâtiment, je crois, des Bouches-du-Rhône, qui nous dit « Moi, je suis inquiet pour la suite, je suis inquiet de l'instabilité, donc j'aimerais bien de la stabilité aussi pour mon activité économique. » Donc on a à la fois la colère d'une certaine partie du pays, et puis aussi cette inquiétude sur la stabilité. Donc on a essayé de mettre les deux face à face, si je puis dire, et de montrer la pluralité des opinions. Alors j'ai conscience que peut-être ça a pu choquer certains auditeurs, je m'en excuse. Simplement voilà, il faut qu'on soit aussi sur ces deux lignes-là, entendre le pays et en même temps faire entendre la pluralité des opinions.
Eh bien, nous, on entend et on lit les courriers des auditeurs. Et évidemment, nous sommes évidemment ravis qu'ils soient aussi nombreux à nous écrire. Je rappelle que je reçois en moyenne 800 à 900 messages par jour, que tous les messages sont lus et que nous sommes...
Y compris par nous.
Et eh bien sûr, ils sont relayés chaque jour aux directions concernées. Donc, soyez sûrs que nous sommes extrêmement attentifs à ce
ça
que
ça a dû monter un petit peu, non, le taux, là, ces derniers jours, non?
Je confirme.
On va pas repartir, le temps imparti est écoulé. Merci Emmanuel Davier, médiatrice des antennes de Radio France. Merci à Philippe Corbet et à Thomas Legrand. 13h45. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton nous conduit depuis lundi au centre historique minier de Le Ward, dans le département du Nord, plongé dans 300 ans d'histoire de l'extraction du charbon. Mais cette mémoire est percutée par le réchauffement climatique auquel le charbon a contribué. Sandy Dauphin, vous avez assisté à une réunion de préparation organisée par le directeur du centre, Luc Pirala.
On va quand même commencer. Eh ben merci de vous être libéré, d'être rendu disponible pour cette réunion qui est quand même un moment important pour essayer de voir un tout petit peu comment cette question climatique pouvait être mise un peu plus dans les enjeux de médiation et notamment des visites que l'on fait.
Stéphane Aridan, donc responsable de la médiation. Effectivement, il y avait une nécessité de retravailler le contenu de ce qu'on va appeler nous notre trame, c'est un peu notre bible de visite. Ce qui n'a pas été simple, hein, parce que la médiation, elle était réalisée pendant très longtemps par des anciens mineurs eux-mêmes, par des gens qui ont vécu cette exploitation. Donc un discours qui était centré, si je puis dire, sur l'exploitation elle-même, les évolutions techniques et sociales du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Alors aujourd'hui, effectivement, on se doit de retravailler ce contenu.
Non, ben voilà, il faut commencer effectivement à la mettre en œuvre.
Comment tu vois les choses? Parce que je suis d'accord avec toi, la question de la visite, c'est aussi des lieux. Quel moment est le plus approprié pour avoir ce type de discours? Est-ce que c'est en introduction? Est-ce que c'est en conclusion? Enfin, c'est des choses qu'on s'est déjà interrogées. Là, tu t'en es où par rapport à ces réflexions?
Ce qui est compliqué, c'est que c'est pas le tout d'ajouter. La visite guidée, dure une heure. Moi, je pense à un contenu qui doit être diffusé tout au long de la visite. Voilà, comment je peux ajouter ce contenu, mettre en parallèle les politiques énergétiques françaises, le dérèglement climatique, tout en continuant à expliquer comment on exploitait le charbon dans la région. Donc, c'est pas simple. Alors, je vous avoue qu'on peut pas le faire partout, on peut pas le faire dans chaque zone où on va s'arrêter. Il y a un chantier que nous on appelle, on l'a surnommé le chantier germinal, parce qu'on explique les techniques de creusement et d'abattage entre les années 1860 et 1880. Mais oui, là on a un lieu, clairement. l'alimentation des machines à vapeur, la réalisation elle-même des machines à vapeur. Voilà pourquoi on a produit du charbon. Et cette production de charbon, elle a été le début du rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre. Donc j'ai envie de dire que c'est le point de départ. Avant de diffuser ce contenu au public, déjà, il va falloir s'en imprégner. Chaque personne du service va s'en imprégner. Et ensuite, on aura des séances de travail in situ. Nous, on diffuse un contenu, mais chacun le diffuse avec son savoir-faire, avec son phrasé, avec son langage corporel. Donc, il faut se l'approprier.
Déjà, je vous remercie pour le travail qui est déjà entrepris. On sent effectivement la volonté, j'allais dire, non pas d'expédier le sujet, mais plutôt effectivement de le travailler tout au long de la visite. Et ça, c'est plutôt quelque chose de super. Il y a un sujet quand même qui me semble important à accentuer, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est évidemment à un moment de l'histoire où on se réinterroge effectivement sur la pertinence de l'exploitation minière. Alors pas forcément évidemment charbonnière pour nous, mais la question de l'exploitation de métaux précieux, enfin vous voyez très très bien les enjeux de souveraineté industrielle au niveau européen, environnementaux qui sont toujours les mêmes, humains, sociétaux, qu'il va falloir continuer à assumer. Et je pense que le centre est un lieu pour, j'allais dire, particulièrement adapté pour pouvoir avoir ce type de dialogue, pour pouvoir peser les conséquences et pouvoir quelque part trouver un chemin pour réussir cette alliance des contraires.
Réalisation de ce feuilleton Sandy Dauphin, épisode à retrouver sur le site de Radio France. J'ajoute que le centre de l'Award a lancé hier, si vous voulez contribuer, avec la Fondation du patrimoine, une collecte de fonds.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le vendredi à 13h50, avec l'écrivaine et journaliste Virginie Troussier, nous explorons les cimes et les océans. Et vous nous conduisez aujourd'hui, Virginie, à Talloire, sur les rives du lac d'Annecy, où vit l'alpiniste de renom Charles Duboulot.
Souvenez-vous, Jérôme, durant l'hiver 2022, Charles Duboulot avait marqué les esprits en s'engageant seul dans la face nord des Grandes Jorasses par la voie Rolling Stone dans le massif du Mont Blanc. Cette réussite s'est imposée comme l'une des plus belles ascensions en solitaire de ces dernières années. Depuis, le Haut-Savoyard a poursuivi des projets ambitieux, mais cet été, il a buté, comme on dit là-haut. Au Pakistan, avec son compagnon de cordée Simon Velfringer, il a tenté d'ouvrir une voie très technique dans la face ouest du Gasherbrum 4, une voie qui mène au sommet à 7925 mètres. Mais après avoir atteint 6900 mètres, ils ont dû faire demi-tour.
Que s'est-il passé ?
Eh bien, les conditions météo, la neige abondante, la chaleur excessive étaient devenues trop dangereuses. La fatigue, l'attente, le découragement et des épreuves comme une chute dans une crevasse ou une avalanche proche du camp de base ont pesé sur l'expédition. Après 50 jours d'engagement physique et mental, il était temps de rentrer. C'était pour moi l'occasion de l'interroger sur le renoncement, une expérience que tout montagnard de tout niveau a déjà connue. Il m'a tout de suite confié « J'ai toujours tout fait pour ne pas avoir à y faire face. Ça a été comme un moteur dans ma vie. » Et l'on comprend ce qu'il veut dire. Le sommet agit comme un aimant, une passion tonique qui donne beaucoup d'énergie. Parfois, cependant, le renoncement s'impose, par épuisement ou parce qu'on pressent un danger, comme ce fut le cas au Pakistan. Le but est de revenir vivant, mais on redescend dans la vallée en se disant que ça aurait peut-être pu passer.
Le renoncement peut-il donner autre chose qu'un goût amer ?
Charles Duboulot me racontait que lorsqu'il avait tenté pour la première fois la voie Rolling Stone dans les Grandes Jorasses, il était avec un ami et ils avaient dû faire demi-tour. Sur le moment, j'étais vraiment déçue, m'a-t-il confié, mais l'envie était décuplée pour la tenter en solo. C'est peut-être cela qu'il faudrait se rappeler à chaque fois. La défaite peut être féconde. Elle fait naître une forme de hargne qui nous rend disponibles à des aventures que nous n'aurions jamais imaginées.
Comment Charles Duboulot vit-il maintenant son retour en France, sans sommet décroché ?
Eh bien, cette fois-ci, cet échec lui a apporté une sorte de paix. Il a envie de se tourner vers d'autres sommets moins extrêmes et en France. La montagne met toujours à nu nos failles, nos crevasses. Et si on les regarde en face, le renoncement peut être extraordinaire. Car dans ces moments de doute, ce sont les sentiments les plus riches qui s'expriment. Réussir ne soulève que peu de questions, alors qu'échouer interroge en profondeur. Et Charles Duboulot revient plusieurs fois sur le mot « chemin ». Et c'est un beau mot, le chemin. Tout ce qui nous arrive de décevant n'est pas forcément absurde, ce n'est qu'une étape sur notre chemin.
Si je comprends bien, la réussite et l'échec ne sont pas forcément deux pôles qui s'opposent.
Exactement, et c'est là l'expérience la plus forte que la montagne nous transmet. Échouer, c'est avant tout essayer, prendre le risque de vivre. À la fin de notre discussion, un souvenir me revient. Ce livre que j'ai lu il y a quelques années, intitulé « Une histoire d'échec » publié aux éditions Nevicata. L'auteur, l'alpiniste Victor Saunders, écrivait « Lorsque vous venez pour gravir le K2, vous portez deux sacs. L'un est rempli de matériel d'escalade, l'autre, le plus lourd, est plein d'histoires. » Et c'est peut-être cela, au fond, que l'on cherche en montagne, une histoire à vivre et à raconter.
Comme vous nous les racontez chaque vendredi, merci Virginie Troussier de C'est la France. Ah, c'est une chanson, on va partir beaucoup plus loin que le Pakistan avec vous Frédéric Pommier. La chanteuse Zaz est à votre micro aujourd'hui.
Zaz qui sortira la semaine prochaine son 6e album studio. 13 morceaux, dont un duo avec Raphaël, réunis sous le titre « Sains et Saufs ». Et c'est le groupe mauricien The Prophecy qu'elle a souhaité que l'on écoute. La chanson s'appelle « La gloire ».
En fait, mon mari est mauricien. Donc quand j'ai rencontré mon mari, j'ai aussi rencontré ma belle famille. Et c'est vraiment une tribu pour moi. Et c'est des gens hyper serviables, gentils, avec du cœur, qui vraiment passent leur temps à faire plaisir, à... Je sais pas, ils sont toujours pleins d'intentions et une douceur que j'ai rarement vue chez des gens, en tout cas dans ma belle famille. Et donc quand je suis allée à l'île Maurice pour la première fois, il y avait cette chanson qui cartonnait à la radio et je suis tombée complètement en amour avec cette chanson. Et elle me fait du bien au cœur, c'est comme des racines, c'est des racines.
Et c'est des racines nouvelles pour vous?
Ouais, et c'est ça qui raconte en fait, que le plus important c'est de garder l'essence de qui l'on est et de ne pas se perdre dans les... plaisir futile en fait, enfin, c'est-à-dire les choses qui sont pas essentielles, les choses qui brillent mais que finalement nous perdent en fait. Et ils prennent l'amour, la justice, l'être ensemble.
Vous, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir le sentiment de vous perdre?
Oh oui, plein de fois, mais même avant d'être connu. Hein.
Mon conjoint l'amour avec celui qui donne nous salaire.
C'est en 2018 qu'est sorti ce morceau de The Prophecy, Frédéric.
Cette chanson, c'est du segué.
Ah, c'est pas du reggae?
Non, c'est un mélange de reggae et de sega, genre musical traditionnel de l'île Maurice. Zaz aime beaucoup le reggae, elle aime beaucoup le sega et tout naturellement, elle adore le segué qu'elle a donc découvert grâce à son mari mauricien. Elle m'a raconté leur rencontre.
En fait, je l'avais rencontré en 2014, quelque chose comme ça, une première fois, parce que je cherchais à faire des cours de kung-fu. Et donc, je l'ai rencontré là, j'ai fait quelques cours avec lui, genre 4-5. Et puis 4-5 ans après, j'avais envie de faire de la boxe et je me suis dit, tiens, mais ce gars-là, il faisait du kung-fu, ça se trouve, il faisait de la boxe aussi. Donc je l'ai rappelé. Et là, on a beaucoup travaillé ensemble pendant bien un an et demi. Et puis après, on s'est re-rencontrés d'une autre manière.
Il ne vous a pas appris que la boxe?
Non, il m'a appris plein de choses, ouais. Il m'a appris la douceur, il m'a appris le fait de pouvoir me reposer sur quelqu'un. Et la confiance. Oh, il m'a appris tellement de choses.
Ça, c'était nouveau pour vous, pouvoir vous reposer sur quelqu'un?
Ouais, parce qu'avant, j'étais tombée amoureuse que de personnes qui me repoussaient. Donc c'était toute cette déconstruction-là qui était folle à vivre avec lui.
Ça prend du temps parfois?
Ça prend beaucoup de temps, et c'est pas terminé. Hein. Ça prend du temps, ouais. Mais c'est beau. L'amour, c'est ce qui soigne tout.
Vous, ça vous soigne?
Bah oui, l'amour, c'est tout ce qu'il y a de plus apaisant, de plus joyeux, de plus heureux, de plus confiant. C'est beau l'amour.
Là au paradis, ici en bas c'est l'enfer, histoire là les révoltes, ça ne te coûte rien. Mais guette l'esprit malin, héros dépasse ce qui plus réserve.
Ce morceau, c'est un morceau que vous écoutez beaucoup, avec lui?
Ouais, je l'ai tellement écouté, là je l'écoute un peu moins, j'avoue. Mais c'est une chanson qui m'a beaucoup, beaucoup nourrie pour tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire les fêtes à Maurice, la rencontre avec sa famille, où tout de suite on s'est aimé, tout de suite on s'est pris dans les bras, tout de suite ça a été facile, entre guillemets. Il y a tout, quoi. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a toutes les traversées. Et puis, c'est une culture qui est incroyable là-bas. C'est une terre qui fait du bien. Il y a cette joie à être ensemble. C'est quelque chose que je connaissais pas.
La rencontre de celui qui est devenu votre mari, elle a bouleversé votre vie?
Oui. Bah oui. Bah oui, parce que d'un coup, quelqu'un m'accueille dans tout ce que je suis, et même dans tout ce que je suis. Même là où je suis pas belle. Même là où je me sens pas aimable.
C'est une chance.
Bah oui, c'est super.
La gloire du groupe The Prophecy, c'était donc Frédéric, le choix de Zaz.
Zaz, dont le nouvel album sortira vendredi prochain, son titre Sains et Saufs. Elle commencera ensuite une très longue tournée qui passera notamment par l'Olympia le 3 décembre.
Merci Frédéric et à lundi. C'est gay le c'est gay, donc on va encore en écouter un petit peu. Pour vous remercier d'avoir été avec nous toute cette semaine, merci également à la rédaction chef à Estelle Schmitt, Cécilia Arbona et Sébastien Sabiron, assisté de Nicolas Sabat, Sybille Bulou et Sylvain Lesage. Remercie à la technique Élise Christophe et Florent Dorimini, Camille Poux-Jalaguier, notre chargée de programme, ainsi que tous les standardistes d'Inter. Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire à suivre.